On voit tout de suite comment trouver du temps pour ses projets personnels quand on a un emploi à plein temps. Mais avant tout, si gagner du temps simplement et durablement vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Une peur m'anime et me fait avancer, celle d'avoir des regrets quand je serai vieux. Par exemple, au moment de commencer mon blog, il aurait été raisonnable d'attendre un an de plus que la classe préparatoire soit terminée. Mais au final, aurais-je vraiment commencé? Ça, je n'en sais rien, mais je suis certain que si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu des regrets énormes dans 10 ans en regardant les blogueurs qui réussissent. En plus, le fait de m'être lancé dans ce projet m'a ouvert des portes inattendues, en particulier au niveau scolaire, parce que ça m'a complètement différencié des autres. Mais alors, comment trouver du temps pour ces projets? On voit ça en 6 étapes. Premièrement, choisir un unique projet. Le problème des gens qui ont envie de se lancer, c'est généralement pas le manque d'idées, mais plutôt le trop plein d'idées et de projets qu'ils ont. On a envie de progresser partout et de performer, mais dans cette situation, c'est difficile de progresser, surtout quand on manque de temps. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ne mentez pas. C'est forcément que vous manquez de temps, non? Alors voici un conseil précieux. Ne faites qu'une seule chose à la fois. Sinon, le risque, c'est de disperser vos efforts, de très peu progresser dans tous vos objectifs et d'avoir une motivation à zéro. En plus, quand on a plein de projets en même temps, on procrastine beaucoup, beaucoup plus. En effet, ça nous donne à chaque fois plusieurs options qui nous font nous sentir bien. Ouais, mais attends, c'est bon, j'ai avancé dans mes projets. Le problème, c'est qu'on risque de toujours choisir l'action la plus facile. Si bien qu'on finit par avancer plus vite sur les projets les moins importants en délaissant l'essentiel. Même si c'est difficile, la patience est une qualité des gens efficaces qui leur fait prendre les projets un par un. Deuxième étape, se fixer un vrai objectif. Je parie qu'une personne sur deux qui regarde cette vidéo et qui pense avoir des objectifs se ment à elle-même. Un objectif, ce ne sont pas des paroles dans le vent, ce n'est pas une vague idée de ce qu'on va faire un jour. L'objectif est précis et se construit par l'action. S'il y a 3 ans, je vous avais dit que je voulais créer un blog de qualité sur le gain de temps et l'efficacité pour aider les lecteurs, vous auriez eu raison d'être sceptique. Bon, en fait, il y a 3 ans, je savais pas du tout que je voulais faire ça, mais c'est juste pour l'exemple. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez constater mes actions en ce sens et il est indéniable que c'est mon objectif. Remarquez que j'ai mis objectif au singulier parce qu'en général, quand on a un emploi à plein temps, c'est assez exigeant et que si on veut réussir sur le plan professionnel et personnel, il faut pas en faire trop non plus. Si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus sur les objectifs, j'ai fait des vidéos à ce sujet, ce sera dans la fiche en haut à droite. Étape suivante, se mettre en pilote automatique. Mon petit doigt me dit que faire moins d'efforts pour autant de résultats, ça vous intéresse. Justement, c'est possible, mais alors attention, ce n'est pas facile non plus, ça demande des efforts et il faut agir pour avoir ces résultats. Mais je l'ai testé et c'est pour moi, de loin, la méthode qui marche le mieux. Et si vous me suivez depuis au moins un jour, vous savez de quoi je parle. Ah ouais, je commence à devenir un peu prévisible là. Il s'agit bien sûr des habitudes. Je vais rappeler rapidement les 3 étapes d'une habitude et après, je vous mettrai en lien dans la fiche quelques vidéos pour vous aider. Premièrement, le déclencheur, c'est comme un pense-bête qui nous fait agir. Par exemple, j'ouvre la porte de chez moi en rentrant le soir, je pense à du chocolat. Donc, passer la porte est le déclencheur. Deuxièmement, la routine, c'est notre réaction au déclencheur. Suite à cette pensée de chocolat, je vais dans la cuisine et je prends du chocolat. Plus vous répétez la routine, plus l'habitude est solide. C'est-à-dire qu'une habitude qui a 20 ans sera beaucoup plus difficile à changer qu'une qui a simplement 2 jours. Troisième étape, la récompense, et c'est vraiment ce qui permet d'ancrer solidement une habitude. Dans notre exemple, c'est le bon goût du chocolat. Au premier abord, changer ses habitudes semble compliqué, et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de mon addiction aux jeux vidéo. Le point positif de tout ça, c'est que ça m'a permis de tester beaucoup de méthodes pour changer mes habitudes. Et pour que ça bénéficie à tout le monde, en tout cas les meilleures méthodes et celles qui marchent, parce que celles qui marchent pas, je vais pas vous en parler, je les ai compilées dans les fiches pratiques des bonnes habitudes. C'est une méthode pas à pas pour vous permettre de supprimer les mauvaises habitudes et de les remplacer par des bonnes. Vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description pour accéder à ces fiches que j'ai faites avec le cœur. Maintenant, point suivant, dominer l'horloge. Certaines personnes aiment organiser chaque minute de leur journée. Je suis certain que ça peut marcher, mais je n'ai jamais réussi à me l'appliquer à moi-même. Pour dominer l'horloge et tirer le maximum de mon temps, j'ai une petite méthode pour vous en 2 étapes. Premièrement, je travaille uniquement aux heures pendant lesquelles je suis le plus efficace. D'expérience, je sais que le matin, je suis extrêmement productif. Je fais donc en sorte de maximiser mon travail le matin pour me laisser plus de temps libre l'après-midi. Pour savoir ce qui vous correspond le mieux, il n'y a pas de secret, il faut tester. Deuxième point, j'ai une heure de faim chaque jour, c'est un élément essentiel pour maintenir son efficacité sur le long terme. Certaines personnes cherchent l'efficacité quotidienne en allongeant leur journée de travail et notamment en grignotant sur le sommeil. J'ai fait toute une série de vidéos à ce sujet, c'est une très mauvaise idée. Avoir une heure de fin de votre travail chaque jour permet de souffler un petit peu, mais aussi de ménager du temps pour vos objectifs. Par exemple, j'arrête le travail tous les soirs à 19h, ce qui me permet de manger et de finir la journée sur ce qui me passionne, le blog. Point suivant, éliminer et simplifier sa vie. Chaque jour, notre cerveau est très sollicité et le problème, c'est que ça nuit à notre concentration. Combien de personnes se vantent de travailler 10 heures par jour et puis, quand vous allez visiter leur bureau, vous vous rendez compte qu'en fait, la moitié du temps, ils sont sur leur téléphone, ils répondent à des mails, ils sont distraits en permanence. Faire de gros volumes horaires, c'est facile et en plus, c'est reconnu par la société. Par contre, vous risquez d'être surchargé et de ne pas avoir de temps pour vous. Or, on l'a vu, avoir des loisirs et faire du sport est extrêmement important pour notre efficacité. En travaillant de plus en plus longtemps, on rentre dans un cercle vicieux qui diminue notre efficacité et pour compenser, on est obligé d'étirer les horaires de notre journée. La meilleure méthode que j'ai trouvée pour contrer ça, c'est de rassembler toutes nos tâches distrayantes. Par exemple, j'adore répondre à vos mails. Les questions que vous me posez sont super pertinentes et je sais qu'en vous répondant, vous allez appliquer et du coup, je pourrais concrètement vous aider. Ma récompense de blogueur, c'est de vous voir progresser. Par contre, ça me prend beaucoup de temps, alors c'est une excuse idéale pour procrastiner. Dans le guide de la procrastination, si je devais vous donner deux conseils, c'est un truc que vous aimez et qui prend beaucoup de temps. Le souci, c'est que répondre à une seule personne est moins important que produire du contenu pour tous les abonnés en même temps. Je me contrains donc à ne vérifier les mails que 4 fois par semaine et pas une de plus. On arrive maintenant à mon astuce préférée, qui est de progresser en temps masqué. Il y a plein de moments pendant lesquels on se sent légitime de ne rien faire parce que tout simplement, personne ne fait rien. C'est le cas dans les transports. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on rentre chez nous, on n'a pas du tout envie de s'y mettre. Alors pourquoi ne pas utiliser nos temps de transport à notre avantage? C'est ce que j'ai fait pendant mes 2 ans de prépa en travaillant une demi-heure à une heure par jour dans les transports. C'est génial, non? Comme ça, une fois rentré, 30 minutes de temps libre en plus. On peut aussi être astucieux en conduisant ou en faisant la vaisselle et la cuisine en écoutant des podcasts. Je le fais tout le temps et pour vous dire, la dernière fois que je suis allé à Paris, donc sans box internet, j'ai consommé mes 20 gigas de forfait en 5 jours. J'ai sûrement dû un petit peu abuser sur le nombre de conférences YouTube que j'ai écoutées en faisant d'autres choses en même temps. Vous savez maintenant comment mieux optimiser votre temps, juste une dernière chose, rappelez-vous que l'action est la clé. Bye.